Bonjour, Raymond Richard au micro avec Michel Bourgès-Monori. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Bienvenue en Europe. Alors, Bienvenue en Europe, eh bien, c'est vrai que maintenant, les médias parlent un petit peu plus de l'Europe, et quelquefois dans le bon sens. Et on a quelque chose qui a été très important, là, c'est comment le président Macron, président français, c'est en Italie qu'il a choisi de parler de l'Europe. Et d'inviter tout le monde à parler de l'Europe. Alors en soi, on peut se dire, quand même dommage, un président français aille parler en Italie, mais en même temps, puisque nous voulons aller vers plus d'Europe, c'est quelque chose qui est à la fois symbolique, mais en même temps qui dit quelque chose de l'Europe que nous voulons.
Oui, tout à fait, cher Raymond, chers auditeurs. C'est le lancement de la campagne européenne, des futures élections, donc du Parlement européen. Ce Parlement dont on parle en temps normal, on n'en parle pratiquement pas, ce qui est vraiment dommage, parce que depuis que l'Europe a été construite, il y a eu toujours cette dimension démocratique de représentation des peuples qui a été introduite dès le départ, mais pas avec les mêmes pouvoirs qu'aujourd'hui, il est vrai.
Au suffrage universel.
Et maintenant, c'est le suffrage universel pour tous, élection directe.
Et un vrai rôle politique.
Un vrai rôle politique, et le Parlement européen, à l'heure actuelle, passe en revue véritablement tous les sujets qui concernent les questions européennes. Alors évidemment, il y a certaines exceptions, mais qui sont prévues dans les traités. Mais on pourra en reparler, notamment touchant la fiscalité. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce Parlement est un vrai Parlement, avec vraiment des pouvoirs importants, et qu'il représente les populations, nos populations, donc sur à peu près 500 millions d'habitants. Maintenant, évidemment, il y aura peut-être demain, il n'y aura plus les Britanniques. Mais donc ce Parlement représente notre continent unifié au sein de cette Union européenne qui a comme devise, rappelons-le, unie dans la diversité.
Et alors, oui, pour en revenir... Unie dans la diversité. On est unis et on est chacun. Parce que souvent, on va perdre notre nationalité, la France, elle va être... Non. On reste français, il y a une culture française, mais il y a aussi une culture européenne à développer.
Et c'est précisément avec cette nouvelle élection qu'on peut se rappeler cette devise, parce que nous formons un tout, et que dans ce tout, comme vous venez de le souligner, il y a les souverainetés nationales qui subsistent et qui, malgré tout ce que peuvent dire certains, chaque État ne perd pas du tout, il n'y a pas une perte de souveraineté, il y a une souveraineté partagée. Et ça, on pourra y en revenir à l'une ou l'autre occasion. Alors le président français a, en quelque sorte, lancé au niveau européen, et ça c'est quand même une première à souligner, qu'un chef d'État ou de gouvernement se lance dans la campagne, non pas uniquement dans son propre pays, mais au niveau européen. Donc il a fait une déclaration... le 5 mars dernier, dans laquelle il, bien sûr, dit ce que lui, il conçoit comme futur de l'Europe, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais surtout comment prendre conscience de la nécessité de l'unification de notre continent au sein d'une Europe qui devrait fonctionner. Alors, ça a été fait sous la forme d'une tribune. Bon, la presse, évidemment, a bien rappelé, a commenté le contenu de cette tribune. Mais ce qui est vraiment intéressant, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que c'est cette dimension européenne. Il a fait cette première réunion au niveau de l'Italie. Il va faire un tour des capitales européennes d'ici jusqu'aux élections qui vont se tenir entre le 23 et le 26 mars, le 26 mai prochain, donc le 26 mai pour l'élection en France. Sa tribune a été traduite en 23 langues, les langues officielles de l'Union européenne. Donc c'est cette dimension européenne, comme vous le rappeliez, qu'il faut prendre en compte. Alors dans le contenu même de cette déclaration, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à un engagement européen, puisque nous sommes ici une radio qui parle de l'Europe, donc ce que nous retenons, ce n'est pas parce que c'est le président français en tant que tel qui a établit cette tribune, c'est surtout par rapport à son contenu. Et son contenu vise une renaissance de l'Europe, une renaissance européenne. Il faut en effet essayer de rebondir et à partir de ces élections qui vont être décisives pour l'avenir de notre continent. Et ça, je crois que c'est très très important de le souligner, que ces élections sont absolument essentielles. Alors évidemment, il y a le contexte international qui joue, on le sait, il y a les États-Unis, la
Russie,
la Russie qui souhaiterait affaiblir
l'Europe.
Et
qui, d'ailleurs,
tout ce monde est en compétition. Et l'Europe, apparemment, si on regarde les faits, a l'air d'être naïve par ses dispositions, ses décisions, ou plutôt son manque de décision, pour au moins défendre non seulement ses propres valeurs, mais également ses intérêts. Donc cela est souligné dans la tribune du président français. Et il dit qu'il faut absolument agir, et notamment vis-à-vis des stratégies agressives, des capitalismes français, des grands ensembles, les États. Et l'Europe en tant que telle peut être une grande puissance, mais à la condition évidemment qu'elle prenne conscience et qu'elle joue.
500 millions d'habitants,
exactement.
Ça compte.
Alors il a surtout mis l'accent sur trois objectifs, trois ambitions. La liberté, la protection, le progrès. C'est une tribune tout à fait intéressante. Elle est évidemment, elle trace un cadre, elle trace un objectif, mais avec un encadrement à travers ces trois points. Alors, et avec à la fois des idées, mais évidemment au niveau de cette tribune, c'est un lancement de campagne. Donc ce n'est pas une précision de dire on va faire telle ou telle directive à telle date, etc., dans tel domaine. C'est à travers ce cadre, par exemple la liberté, eh bien, il faut prendre conscience qu'il faut défendre notre liberté démocratique, qui est quand même quelque chose d'admirable au niveau de notre continent. Alors il propose que, dans cette dimension-là, pour défendre la liberté de l'homme, eh bien, il faudrait viser à la création d'une agence européenne de protection des démocraties. Bon, ça, c'est quelque chose. Il faut agir contre les cyberattaques, les manipulations, les fake news, etc.
Oui,
donc il y a toute une série de choses qui sont
tout à fait important, oui.
Qui ont l'air assez générales, mais sur le plan d'Internet, qui peuvent vraiment jouer un rôle qui n'est pas du tout négligeable. Alors on sait d'ailleurs que par ailleurs, l'Europe a déjà pris un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne le numérique, etc. Donc c'est cette prise de conscience où il faut aller encore plus loin. Il faut également protéger notre continent. Ça, c'est la deuxième ambition. Il faut remettre à plat Schengen. Alors là, on touche évidemment aux grandes discussions par rapport au mouvement de personnes, les migrants, etc. Et l'on sait qu'au sein de l'Europe actuelle, il y a un certain nombre de pays qui n'arrivent pas à se mettre d'accord avec les autres pour essayer d'arriver à une harmonie. Eh bien, lui, il dit qu'il faut aller de l'avant, il n'y a rien à faire, autrement on ne s'en sortira pas. Donc il faut qu'il y ait non seulement un contrôle rigoureux des frontières, donc ça, ce qui paraît tout à fait normal, puisque s'il y a un ensemble, il faut bien qu'il y ait une frontière commune, mais évidemment, ça implique une liberté de mouvement à l'intérieur de cet ensemble. Mais parallèlement, il ajoute, il faut aussi, s'il y a un tel contrôle et remettre à plat Schengen à travers des frontières véritablement bien surveillées, avec aussi les moyens qu'il faut, donc une police des frontières communes, un office européen de l'asile, mais il faut aussi que cela aille de pair avec une solidarité entre les États membres. C'est-à-dire qu'il faut une même politique d'asile, il faut les mêmes règles d'accueil, de refus des réfugiés, etc. Et là, on retombe, c'est un objectif, mais on retombe sur les objections d'un certain nombre de pays, notamment ceux que l'on appelle de Visegrad, avec en tête la Hongrie, qui refuse catégoriquement tout même dialogue sur ce sujet et qui veut rétablir des frontières absolue, non seulement à l'extérieur, mais également entre les États membres. Et avec une absence de solidarité totale, alors que la Hongrie bénéficie d'un certain nombre d'avantages au niveau européen qu'on pourrait souligner par ailleurs. Donc il y a cet objectif Une Europe qui protège l'ensemble de ses citoyens, mais évidemment, il faut protéger ses valeurs, ses frontières, mais il faut qu'à l'intérieur de cet ensemble, il y ait une solidarité. Donc là, on pourrait y en revenir.
Alors, et avant de poursuivre, il me semble aussi qu'il y avait quelque chose d'intéressant à propos du Parlement européen, c'est que lorsque les parlementaires ne sont pas là, ils sont pénalisés. Et là, il me semble qu'il y a, on l'a vu lorsque les médias ont mis l'accent sur l'absentéisme de Mme Le Pen et les amendes que lui a infligées le Parlement européen. Mais c'est une disposition commune. Et ça me paraît intéressant parce que, quelquefois, on attend de nos hommes politiques, de nos députés, par exemple, qu'ils soient des assistantes sociales, alors qu'en fait, ils ont un rôle à faire les lois et que pour les problèmes sociaux de chacun, il y a des dispositifs, il y a des administrations, il y a...
Des règles au plan européen qui sont tout à fait intéressantes et dont on pourrait s'inspirer au plan national. Ça, je crois qu'on pourra y revenir.
Alors, pour la législation, entre autres.
Mais il n'y a pas que même. Et aussi, en ce qui concerne l'analyse, ce que font les députés européens, on pourra peut-être en retoucher un mot dans un moment, mais il y a eu des analyses qui ont été faites en ce qui concerne la présence et le rôle, les actions des députés par pays.
Voilà, alors par pays.
En ce qui concerne la France, d'ores et déjà, en devançant les propos qu'on va peut-être tenir dans un moment, on peut déjà dire que le président de la France insoumise en France, donc M. Mélenchon, pour le citer, qui est parlementaire européen, il est en queue de liste sur les 73 députés. Il est l'un de ceux qui a le moins fréquenté le Parlement européen. Et donc, il est pénalisé à cet égard. Mais il y a des analyses qui ont été faites, parlementaire par parlementaire, pour essayer d'analyser quel a été leur rôle, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont voté pour telle chose ou contre telle chose. Donc il y a des analyses très intéressantes qui ont été faites, et notamment on peut retrouver cela sur le site du Mouvement européen français.
Alors c'est ça que je voulais dire, c'est la précision et la transparence du fonctionnement du Parlement européen et d'une certaine manière des institutions européennes que l'on ne retrouve pas partout. Et même dans certains cas, c'est par exemple la France qui a empêché que certaines dispositions de transparence se poursuivent en demandant par exemple... pour les subventions de la PAC notamment, que ce qui apparaissait de façon très claire, si on voulait le savoir, on pouvait savoir que tel fermier avait reçu tel tant d'euros, 200 à X milliers d'euros. Et je crois que là, il y a peut-être une transparence qui éviterait ces fraudes fiscales, ce dont on se plaint chez nous, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi un problème concernant le choix des candidats pour les élections européennes. On a l'impression, dans les choix qui sont faits par nos hommes politiques français, par les partis, qu'ils placent en Europe les recalés des élections françaises. Et là, on pourrait peut-être choisir des gens qui ont des convictions européennes et qui savent ce qu'ils vont faire quand ils vont à Strasbourg ou à Bruxelles, qu'ils soient pour ou contre l'Europe, d'ailleurs.
Oui, il ne s'agit pas de...
Pas de recalés.
Mais exactement, et ça c'est... Et la France est l'un des mauvais élèves à cet égard, si on compare notamment avec notre partenaire qui est l'Allemagne. L'Allemagne a très bien compris le rôle du Parlement européen. Elle garde les parlementaires, elle les reconduit dans les listes qui sont soumises aux élections par rapport au rôle qu'ils ont eu, si bien que dans le Parlement européen actuel, la plupart des commissions qui ont une importance vraiment cruciale dans le fonctionnement institutionnel européen, comme par hasard, la plupart sont de nationalité allemande.
Ce point de vue-là, on peut déplorer le départ des Anglais s'ils s'en vont.
Exactement.
Parce qu'ils étaient très précis et très concrets.
Oui. Alors j'en reviens cadrage qu'a donné le président français. Dans le cadre de cette ambition, deuxième ambition qui a été soulignée, c'est donc de protéger notre continent. Et cette protection va évidemment à travers les aspects purement de défense militaire, donc le traité de défense et de sécurité. Donc il faut aller plus avant dans ce domaine-là. tout en n'oubliant pas évidemment le lien avec l'OTAN, et également, il est souligné dans cette publication que le Royaume-Uni, même s'il n'est plus demain dans l'Union européenne, eh bien, il doit rester associé au plan militaire pour défendre également notre continent. Donc, c'est une approche à la fois pragmatique, mais surtout qui se fonde sur une analyse des dangers actuels qui ne sont pas du tout à ignorer, des dangers conflictuels dans le monde actuel où l'Europe pourrait être mise à mal, notamment lorsque l'on songe à l'attitude du président américain Trump qui essaie de se désolidariser en quelque sorte au sein même de l'OTAN par rapport à ses alliés. Alors, un autre domaine en ce qui concerne cette protection européenne qu'il faut absolument développer, c'est une juste concurrence qui doit être appliquée non seulement au plan intérieur, mais surtout vis-à-vis de l'extérieur. Et il est dit qu'il faut absolument qu'il y ait une préférence européenne, exactement comme le font aussi nos concurrents américains ou chinois. Alors évidemment, il y a, ce n'est pas indiqué dans ce document-là, mais il y a ce rappel indirect à la récente affaire de la fusion qui avait été proposée de Siemens
et
Alstom, et qui a été refusée par les autorités européennes compétentes, il est vrai, mais qui, selon les règles actuelles, ne permettent pas d'assurer cette défense,
libre
concurrence au niveau international. Alors, le dernier point, c'est de retrouver l'esprit de progrès. Donc, c'est cette idée générale que l'Europe est une nécessité. Vu le monde actuel, il faut absolument rester unis, mais que par rapport à tel ou tel problème technique ou pas, eh bien, c'est précisément à travers cette Europe que l'on pourra trouver des solutions et qu'au plan national, on n'y arrivera pas. Et que parallèlement, et de manière sous-jacente, eh bien, il faut absolument développer tout ce que l'on peut développer à partir des talents européens. Et alors là, on rejoint non seulement tout ce qui touche à l'innovation, comment financer cette innovation. Donc, il est proposé de réunir des fonds à la manière dont les Américains et les États-Unis le font, hein, parce qu'ils ont un budget considérable qui est consacré à l'innovation. Il faut, à l'intérieur de cet ensemble européen, il faut développer un bouclier social avec des normes de progrès. Il faut développer une rémunération harmonisée en ce qui concerne les minimums de salaire, non pas au niveau de l'Europe, mais pays par pays, en fonction de ce qu'il est possible de faire à l'intérieur de ces États, mais qu'il y ait un salaire minimum qui évidemment a l'objectif une harmonisation sociale qui manque à l'heure actuelle. Également, il faut aller dans le sens d'un combat écologique, par exemple de supprimer tous les pesticides en 2025, en tout cas les diviser par deux, en 2050, qui est plus que zéro carbone, etc. Bon, il y a toute une série de choses qui sont projetées, indiquées. Vis-à-vis de l'extérieur, il faut que l'Europe joue un rôle et se tourne vers l'Afrique pour développer ce continent parce qu'on a véritablement besoin réciproquement les uns des autres. Et puis, donc, l'ensemble fait que c'est à travers ces trois objectifs, la liberté, la protection, le progrès, eh bien, ceci pourrait constituer les piliers d'une renaissance de l'idée européenne, d'une renaissance européenne. Et alors, il propose qu'il y ait même un suivi à travers une conférence qui se tiendrait en 2020 ou d'ici la fin de même 2019, donc une fois les élections européennes passées, qu'on se tourne vers les peuples européens et que l'on réunisse une conférence pour analyser toutes les propositions, tous les changements qui seraient nécessaires pour que l'Europe soit évidemment plus proche de ses citoyens, qu'elle réponde à tous les objectifs nécessaires pour défendre notre continent Et voilà, en quelque sorte, de manière résumée, très succinctement, le contenu de cette tribune. Mais comme on l'avait dit au début, ce qui est important, c'est surtout l'idée générale de montrer que l'Europe, avec, et surtout dans le contexte actuel, parce que quand on se place dans une élection, il y a évidemment ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il ne faut pas se leurrer. Donc ceux qui sont contre, eh bien, ce sont les extrémistes que l'on sait, les partis de droite extrêmes dans un certain nombre de pays. Vous avez de plus en plus d'élections nationales qui ont mis en avant les thèmes du protectionnisme, de tout ce qui est anti-migratoire, courant migratoire. Et donc, ce qu'il convient de faire, c'est non pas se recroqueviller chacun, pays par pays, sur un certain nombre de choses, mais au contraire de partager, parce que c'est en se mettant ensemble qu'on pourra régler les problèmes. Donc c'est ça l'idée générale, ce qui est une idée depuis le début des pères fondateurs. Hein, ça a toujours été comme cela. On essaie alors, de on mettre peut, en commun un certain nombre de choses parce que c'est le meilleur moyen de les régler mieux qu'au plan national. Donc il ne s'agit pas de dévaloriser l'échelon national, bien au contraire, mais il faut qu'une pareille mise en commun puisse être faite, et l'élection future du Parlement européen est évidemment l'élément central, vital, très important dans cette perspective.
Alors effectivement, il y a des choses qui sont aussi à faire, mais aussi qui sont faites. Et ça, je trouve intéressant dans les propositions de la commission spéciale qui a été créée au mois de mars 2018 et qui, pour un an, et qui maintenant rend sa copie. Et lorsqu'elle rend sa copie, elle notamment pour renforcer la lutte contre les infractions fiscales au niveau européen et mondial, parce qu'effectivement, elle observait que 7 pays de l'Union européenne, Belgique, Chypre, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, avaient les caractéristiques, je cite, d'un paradis fiscal et facilitent la planification fiscale agressive. Donc vous pouvez vous arranger parce qu'il y a des écarts entre la loi. Donc là, il y a des dispositions qui sont proposées par la Commission au Parlement, et notamment le rapport qui a été adopté par les gens qui l'ont fait, qui sont de différents pays, 34 voix pour, 4 contre et 3 abstentions, doit être mis aux voix dans la session du Parlement de Strasbourg du mois de mars. Et alors, entre autres, enquête, audition, après les révélations, tous, vous avez entendu parler de Panama Papers, de Paradise Papers, on a appris de façon très concrète qu'il y avait des dispositifs, qui permettaient l'évasion fiscale. Bon, et bien là, il y a notamment une proposition de faire progressivement disparaître les visas et passeports dorés, qu'il y a une mise en place d'un observatoire de la lutte contre le blanchiment des capitaux, des contre-mesures, vous évoquiez tout à l'heure, contre les pays qui sont agressifs vis-à-vis de l'Europe sur le plan commercial, eh bien là, la Commission propose des mesures à l'encontre des États-Unis si le pays ne garantit pas la réciprocité des traités. Vis-à-vis de la Suisse, afin de s'assurer qu'aucun régime fiscal dommageable n'est introduit, la bonne gouvernance fiscale qui doit être incluse systématiquement dans les nouveaux accords, la protection des lanceurs d'alerte. Donc, en fait, les problèmes qui sont évoqués, la Commission les prend en compte et elle propose au Parlement des lois. Alors maintenant, il faut encore que les États, si les lois sont votées, que les États les transcrivent dans leur pays. Et ça, c'est effectivement un vrai problème parce que, je vous cite, la libre circulation des capitaux et des services, on veut une surveillance transfrontalière efficace, mais 28 façons différentes de la mettre en œuvre. Donc la Commission propose que là, on s'harmonise, parce que c'est bien gentil de dire l'Europe doit, mais l'Europe existe dans le domaine de la politique agricole, mais dans les autres domaines, elle n'existe pas. C'est du ressort des États. Donc là, la Commission propose d'aller dans une convergence, et je crois que ça, c'est très important pour faire avancer l'Europe, parce que c'est trop facile de dire l'Europe devrait s'occuper de ça, alors que ça n'est pas de son rôle, et que quand elle le fait, on retoque ses dispositions.
Tout à fait.
Donc là,
et on sait en particulier que l'harmonisation fiscale est l'un des points essentiels sur lesquels il faut se pencher pour le futur de l'Europe, parce qu'il se traduit à l'heure actuelle par une concurrence absolument déloyale à l'intérieur même de l'Union européenne. Alors, on ne va pas revenir dans le détail sur ces questions-là, mais la Commission elle-même a proposé que tout ce qui touche à la fiscalité
l'harmonisation de la TVA, par exemple.
Et là, il y a eu déjà des accords, hein, il y a déjà des tranches en ce qui concerne la TVA, c'est très limité parce que c'est absolument du ressort des États. Donc il faut un vote à l'unanimité des États à l'heure actuelle. La Commission a proposé que précisément on mette la fiscalité sur le plan comparable à l'élaboration des législations ordinaires
au
niveau européen, c'est-à-dire la majorité
pas.
Qualifiée. Alors il y a des propositions qui ont été faites, mais on sait très bien que à l'heure actuelle,
les pays sont contre, quand ça les arrange.
Il y a un égoïsme national qui transparaît, mais qui est un égoïsme à la limite stupide, puisque c'est en quelque sorte scier la branche sur laquelle on est assis en continuant dans cette direction-là, puisque on aboutit à des concurrences qui, finalement, démolissent le socle européen et arrivent à de tels problèmes qu'on risque un éclatement général. Donc on est arrivé à un stade où il faut vraiment faire quelque chose. La France, pour ne pas attendre justement cette harmonisation depuis déjà tellement de temps, a pris les devants, et notamment en décidant de taxer directement les GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, donc c'est les grands dans le numérique, les Google, Apple, etc., Amazon, Facebook, tous ces grands ensembles pour le numérique seront dorénavant taxés au niveau français, tel que la Commission européenne avait elle-même proposé de les taxer au niveau européen. Et donc la France a décidé d'ores et déjà de le faire. Alors évidemment, là aussi, on pourrait ouvrir le débat.
En Irlande.
Il y a encore le problème irlandais, il y a le problème du Luxembourg, il y a le problème, etc., etc. Bon. On essaie d'aller vers une harmonisation au niveau de l'OCDE parce que les Allemands craignent une réaction des États-Unis pour ses propres exportations. Enfin, tout est lié, évidemment. Et à chaque fois, il y a l'intérêt national qui revient sur le devant de la scène. Et on oublie par là même l'intérêt général qui devrait primer sur l'intérêt particulier, puisque c'est l'intérêt de tout le monde. Donc il y a beaucoup à faire. Et l'élection, là aussi, qui est à venir, a son rôle à jouer pour précisément aller dans le sens d'une harmonie, d'une harmonisation. Ça ne veut pas dire égalisation, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut imposer depuis Bruxelles, entre guillemets, des choses de manière autoritaire. Ce n'est pas du tout ça, mais il faut qu'il y ait une compétence partagée où les États, où chacun pays a son rôle à jouer, mais de manière évidemment plus intelligente.
Pour éviter, nous disent les textes de la Commission européenne, là, c'est la Commission européenne qui dit, le système de fraude démontre que la complexité des systèmes fiscaux, de chacun des pays, engendre des vides qu'il faut privilégier à l'avenir, des traités multilatéraux faits ensemble, et non pas bilatéraux, deux par deux. Donc là, on voit qu'il y a bien un ensemble de fonctionnaires, de gens qui sont pro-européens, qui disent « allons vers cette harmonisation pour le bien commun », et puis quelques personnes, quelques groupes d'intérêts qui tirent en arrière. Alors quand même, pour finir, des choses positives. Il y a aussi une avancée, en tout cas la Commission propose qu'il y ait une avancée en ce qui concerne l'égalité homme-femme. Et pour la bonne nouvelle, eh bien, c'est une femme qui vient d'être élue au gouvernement de la Lettonie. Voilà, il y avait de nouvelles élections et c'est une dame qui prend les rênes de la Lettonie. Donc on voit quand même que, bon an, mal an, les choses avancent et puis eh bien, c'est à nous de faire pour qu'elles aillent le mieux possible. Contre le blanchiment des capitaux, pour l'intérêt commun, pour la vie en commun et pour une Europe qui fait avancer les idées et protège les hommes.
Die Sonne scheint, Wolken ziehen, der perfekte Moment wird heute verpennt. Ich dreh mich nochmal um, dann deck ich mich zu. Heute steh ich nicht auf, ich wüsste auch nicht wozu. Ich dreh mich nochmal um, weil ich das gern tu. Ich hab alles, was ich brauch.